RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Angle. Aujourd'hui, nous allons être un peu chauvins. Alors depuis le confinement, les appels à acheter français se multiplient. L'heure est à la solidarité avec les artisans et les industries françaises. Mais oser le Made in France, est-ce que c'est à la portée de tout le monde et de tous les portefeuilles? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et avec moi pour en parler, donc en studio, Fabienne Delahaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et présidente du MIF Expo, c'est le salon du Made in France. Voilà, on va en parler, il y a une actu justement aujourd'hui. Et puis avec nous aussi Marie Auffray par téléphone, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Notre Temps qui consacre donc ce mois-ci une grande enquête sur le Made in France avec plein d'idées de cadeaux, toute une enquête, une analyse. Voilà, on va se plonger aussi dedans. Oser le Made in France, c'est notre thème du jour.
Grand Angle, proposé par Faustine Fayette.
Alors le fabriqué français, le Made in France, même si c'est déjà un peu anglo-saxon comme expression, se développe de plus en plus et en même temps, avec ce développement, on va dire, peut-être de nouvelles entreprises, de l'artisanat français qui mettent plus en valeur, il y a aussi une nouvelle conscience qu'il faudrait sauver notre industrie française. Et les seniors sont particulièrement sensibles à cette question. Alors, je me tourne vers vous, Marie Auffray, puisque donc rédactrice en chef du journal Notre Temps, qui cible un peu plus les seniors. Cette question, pourquoi cette sensibilité interpelle peut-être plus la génération des seniors? D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vraiment vrai. Marie?
C'est vraiment vrai. C'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'actualité. Hein. D'abord, peut-être un chiffre. Selon un sondage Opinionway qui a été réalisé lors du premier confinement, 60% des Français et 70% des seniors seraient prêts à acheter même plus cher hein, un produit qui est fabriqué en France plutôt qu'importé. Bon, c'est vrai que de manière générale, et je pense que votre invité ne vous dira pas le contraire, il y a depuis cette période du premier confinement une vraie appétence pour le local et le Made in France. Alors pourquoi? Alors on peut imaginer que cette tendance est multifactorielle. Hein. Avec le Covid, il y a certainement une méfiance de tout ce qui nous vient de Chine. Bon, ça c'est une première chose. Et puis il y a aussi la prise de conscience que notre économie souffre et qu'elle ne va pas se redresser toute seule. Et puis évidemment, les seniors, ben, ils ne vivent pas en vase clos. Hein, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants qui sont particulièrement affectés par la crise. Hein, les chiffres du chômage chez les jeunes le montrent. Donc vous me demandez pourquoi les seniors soutiennent particulièrement cette tendance. Ben, je pense que c'est leur façon à eux de soutenir les emplois de leurs enfants et des petits-enfants. Bon, cela dit, il n'y a pas que les seniors, hein, y a une partie des jeunes aussi qui reviennent à une forme de sobriété après avoir surconsommé. Voilà, mais je pense que c'est aussi une tendance à laquelle on assiste lorsqu'il y a des crises. On avait ressenti cette même volonté après la crise financière de 2008 avec l'idée d'acheter mieux, mais d'acheter moins. Donc voilà, on ne sait pas si ce sursaut va durer, mais en tout cas, il existe et chez les seniors vraiment en particulier.
Fabienne Delahaye, vous êtes donc fondatrice et présidente du salon du Made in France.
Oui.
Vous l'avez lancé en 2012, donc
oui.
Ça fait déjà quelques années. Vous avez observé qu'il y avait beaucoup de seniors qui venaient dans ce salon?
Alors, oui, bien sûr, il y a des seniors, mais pas que. Ce qui est très intéressant, c'est que plusieurs générations viennent au Made in France, pas forcément pour les mêmes motivations. Je m'explique. On a fait une étude justement sur le salon, et parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes, et on s'est posé cette question. Et alors c'est très intéressant parce que les jeunes, je vais être entre guillemets un peu caricatural, parce qu'il y aura forcément des exceptions, vous allez forcément me trouver un jeune qui ne sera pas dans cette catégorie. Hein. Mais donc, grosse tendance, les jeunes sont made in France pour des raisons de circuit court. Voilà, c'est essentiellement le côté locavore qui les motive. Tandis que leurs parents, donc disons les 45, 50, enfin bon, voilà, eux, c'est effet. Alors vous parliez de l'emploi, la désindustrialisation et les le 1,5 million d'emplois perdus. Et là, je parle avant le Covid, parce que déjà après avant. Covid, bon, mais bien avant Covid, parce que cette demande de Made in France, elle a une vraie antériorité. Disons que la Covid a éclairé. Cette demande qui existait depuis longtemps, puisque moi, depuis 2012, je fais le salon, d'ailleurs, et je vous dirai un peu comment j'ai su que ça avait augmenté, mais bon. Et donc, les parents, c'est plutôt pour des raisons, effectivement, de lutter contre le chômage. Et les seniors, c'est la préservation des savoir-faire. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une motivation savoir-faire, plus senior, emploi, les parents, jeunes, circuit court, on arrive à consommer Made in France. Et ça, c'est une excellente nouvelle.
J'entends dans ce que dit Fabienne qu'il y a cet aspect un peu de préservation et de transmission. Je pense que ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aussi à vos lecteurs, Marie. Et puis, peut-être, il y a même vous, en tant que journaliste, j'allais dire, est-ce que le fait d'avoir choisi de faire une enquête comme ça, c'est une façon presque militante, en fait. Déjà, c'est un acte engagé et militant de faire un dossier sur le Made in France, de le mettre en valeur, de le valoriser maintenant, avant les achats de Noël.
Oui, alors, il ne s'agit pas pour nous d'être militants, hein, de manière générale. Hein, nous, le but de notre dossier, c'est vraiment d'accompagner nos lecteurs dans leur désir d'acheter français, hein, de les aider à contourner les difficultés, et puis aussi de leur montrer les implications de leur choix. Par exemple, c'est ce que montre dans son enquête notre journaliste Céline Chaudeau, hein. Acheter français à long terme, c'est vertueux à la fois pour l'emploi, mais aussi pour notre pouvoir d'achat et pour notre environnement. Voilà, nous sommes vraiment nombreux à y rêver pour ce fameux monde d'après, mais plutôt qu'un acte engagé et militant, je dirais que c'est pour accompagner. Voilà, c'est pour accompagner et puis aussi décrypter. En fait, en général, c'est ce qu'on fait et ce qu'on sait faire à notre temps.
Et là, justement, la journaliste, donc dans votre dossier, dit bien à long terme, c'est très vertueux. Mais le truc, c'est que souvent, on voit à court terme et on voit aussi les tarifs. Et dans votre édito, vous prenez l'exemple de la voiture. Voilà, je veux acheter une voiture française et là, ça devient hyper compliqué.
Oui, alors c'est vrai que je me suis laissée aller raconter une anecdote personnelle parce que je pense que tout simplement elle est très parlante. En fait, voilà, je voulais changer de voiture et comme je ne suis pas particulièrement fidèle à une marque, ben, j'ai voulu apporter, comme nous sommes nombreux à le faire, ma petite contribution à l'économie nationale en achetant français. Et donc je me suis renseignée et j'ai appris que toutes les marques françaises en fait ne sont pas fabriquées dans l'Hexagone. Et aussi que certaines marques étrangères sont fabriquées en France. Donc, attention, acheter une marque française, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire attention à la provenance. Par exemple, donc j'ai mené ma petite enquête à titre personnel, mais je trouve que c'est intéressant de le savoir, sur une quarantaine de modèles de marques de voitures françaises. C'est 18 sur 42, je crois. La moitié bénéficie du label Origine France Garantie. Et alors moi, j'ai la chance d'avoir un autre temps un journaliste spécialisé dans les automobiles qui m'a donc dit que Renault fabrique des Nissan, PSA des Opel et que certains modèles du japonais Toyota sont produits chez nous. Alors vous voyez un petit peu le casse-tête.
Ouais. Alors Fabienne veut justement rebondir. Je vois que vous acquiescez.
Oui, bien sûr, j'acquiesce. Vous avez tout à fait raison. Je pense que l'exemple est excellent, mais on pourrait le prendre avec d'autres produits. Effectivement, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce salon, c'est que la distinction entre produits faits en France, fabriqués en France, n'a rien à voir avec une entreprise dont le siège social est en France et qui a pu tout délocaliser. Donc, ce qui est pour moi important et qui préserve au moins le savoir-faire et l'emploi, c'est quand la chose, elle est bien faite sur ce territoire. Et c'est vrai qu'entreprise française et entreprise qui fabrique en France, c'est deux choses parfaitement différentes. Et beaucoup de Français, justement, achètent, se disent, tiens, bah, j'achète Renault, je participe à créer de la richesse. Alors oui, ils participent à créer de la richesse, mais pas en France, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Alors, bon, en général, quand même, c'est en Europe. Hein. Il faut quand même rassurer aussi vos auditeurs. la majorité des voitures françaises, quand elles ne sont pas faites en France, sont quand même faites en Espagne, par exemple. Voilà. Enfin, je ne suis pas une spécialiste de la fabrication des voitures, mais c'était pas non plus honteux. Voilà.
Et alors, on a l'impression quand même, du coup, que ces entreprises Made in France souffrent d'une mauvaise image, c'est plus cher. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que aussi c'est simplement un manque de visibilité, peut-être un manque d'information? Parce que on voit que là, vous avez quand même un peu fouillé, fait une petite enquête. On va pas faire ça pour tous les petits produits du quotidien, quoi. Ou alors, il faut vraiment se remonter les manches.
Écoutez, moi je suis pas sûre qu'elles souffrent d'une mauvaise image. Au contraire, il y a beaucoup de marques françaises, par exemple de vêtements, hein, qui fabriquent en France, qui le disent, qui le font savoir. Et c'est toujours un petit peu les mêmes que l'on voit, hein, dans les médias quand même, qui ont une bonne image de qualité. Je pense à des marques comme Aigle, comme Saint-James, comme Armor Luxe. Ces marques-là, elles ont vraiment une bonne réputation. Et puis, elles fabriquent aussi des objets qui sont assez iconiques. On voit par exemple la marinière, le caban ou la paire de bottes du grand-père qui ont bien tenu le coup au fil des années et sont même parfois des choses qu'on se transmet. Donc là, c'est vrai que pour ces produits, on n'a pas trop d'état d'âme à mettre le prix, je trouve. Mais c'est vrai que pour s'y retrouver, il faut quand même suivre certains labels ou bien c'est le bouche à oreille. Il n'y a pas une vraie information sur ces questions-là. Il faut vraiment chercher. C'est vraiment, et là on rejoint votre question du début, c'est presque un acte militant, hein, ouais, parfois, de vouloir acheter français.
Alors peut-être c'est pour cela que vous avez fait, alors j'avance dans mes questions, mais c'est pour cela que vous avez fait le salon, Fabienne, pour peut-être permettre plus de visibilité à tout un tas d'entreprises qui se développent.
Alors oui, exactement. D'une part parce que je voulais moi-même acheter des produits consommés Made in France et je me suis rendu compte que finalement, donc c'était en 2012, hein, la première édition du salon, donc je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça et je me suis fait, entre guillemets, avoir. J'étais sur un salon et j'achète un layol qui était fait en Chine, en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais quand même, c'est fâcheux parce que j'ai pas du tout regardé le tarif, etc. Je me suis dit, je veux contribuer à créer de la richesse. Je veux contribuer à préserver l'emploi, le savoir-faire. Et j'achète Made in China. Je me suis dit, alors, c'est pas possible. Et c'est là, j'avais déjà l'idée. Mais ça n'a fait que confirmer le fait qu'il fallait effectivement donner la possibilité à ceux qui souhaitent acheter Made in France de leur laisser cette possibilité. D'où effectivement le salon, mais c'est qu'une fois par an. Mais là, je ne vous dirai pas, on vient de faire quelque chose de vraiment sympa justement pour remplacer l'annulation du salon qui a été vraiment un crève-cœur.
Ah oui.
Ah oui.
Dans votre enquête, dans le Notre Temps, donc de décembre 2020, Marie, il y a 3 pages sur des idées cadeaux. Le tricolore, j'adore. Alors, c'est illustré par Lulu la Nantaise. En plus, j'ai bien aimé ce petit clin d'œil Made in France. Et alors, c'est rigolo parce que donc vous mettez en valeur plein de produits français qui peuvent faire office de cadeau de Noël. Et à chaque fois, est précisé justement où est-ce que le produit est fabriqué. Et je trouve qu'on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi cet aspect un petit peu presque nostalgie de la France, de nos parents, de nos grands-parents, quand on voit certains produits, en fait. Comme s'il y avait un retour, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, à presque plus de sobriété ou voilà, cette nostalgie de l'avant ou de préserver une certaine France.
Oui, c'est vous. La question s'adresse à moi.
Oui,
comment
oui,
je ne vois pas, c'est pas si simple. Oui, vous avez raison. Il y a un côté France éternelle, hein. Et puis c'est vrai que quand on achète certains produits made in France, on achète un petit bout d'Alsace, un petit bout de Bretagne. Mmh. Ça fait rêver aussi. Ça renvoie à des endroits extrêmement identifiés. Mais enfin, il y a de la nostalgie, c'est vrai, mais il y a aussi un vrai savoir-faire, hein. Je pense par exemple aux cocottes en fonte émaillée le Creuset qui sont fabriquées dans l'Aisne, par exemple. Voilà, c'est à la fois des objets qui sont résistants, mais qui sont aussi très jolis. Et voilà, donc vous avez raison, il y a ce côté nostalgique, on voyage un petit peu, on fabrique des souvenirs, et puis il y a de la qualité, il y a de la qualité également.
Ça met en valeur aussi la qualité et ce savoir-faire français. Marie, on va vous laisser là. Merci beaucoup. Donc, j'invite donc les auditeurs peut-être à retrouver votre magazine Notre Temps dans les kiosques, encore pour une dizaine de jours. Hein. Faut vite courir, voilà, le chercher pour avoir peut-être quelques idées de cadeaux fabriqués en France. Merci beaucoup, Marie.
Un grand merci. Au revoir.
Et puis nous, on va peut-être justement rejoindre un petit peu de nostalgie avec Charles Freinet et cette grande chanson, hein, Douce France, qu'on connaît tous et qu'on va tous fredonner.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, gardé dans mon cœur.
Douce France, Charles Freinet, et c'est notre thème du jour dans Grand Angle, oser le Made in France.
Grand Angle, RCF.
Alors nous reprenons un petit peu notre discussion sur cette nouvelle tendance, nouvelle peut-être pas si nouvelle que ça, le fabriquer en France, mettre en valeur le savoir-faire français et nos industries françaises. Avec nous pour en parler Fabienne Delahaye, qui est fondatrice et présidente du salon du Made in France, et on va en reparler parce que ce salon malheureusement a été annulé à cause de cette crise sanitaire, mais il y a une forte actualité quand même. Mmh. On va revenir dessus. Et puis nous rejoint Franck Lebédé, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes directeur d'études et de recherche au CREDOC. Je rappelle que le CREDOC, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Voilà. Vous avez observé notamment cette tendance un peu de lâcheté français. Et alors, je voudrais savoir, puisque vous avez étudié ça, c'est quand même une tendance qui n'est pas si nouvelle que ça. On l'observe depuis un certain nombre d'années.
Oui, c'est une tendance qui, en fait, a fortement commencé à se développer, ou en tout cas s'est fortement développée à partir de la crise de 2008-2014. On a eu, chez les Français à ce moment-là, un fort questionnement sur l'intérêt de la mondialisation, les limites qu'elle pouvait avoir, les défauts, hein, les aspects négatifs qu'ils pouvaient en retirer, notamment en termes d'emploi. Et ça a fait que les Français se sont posé la question de savoir si dans leurs achats, ils pouvaient pas avoir un impact pour protéger les emplois en France, pour créer une activité et une richesse sur le pays, sans obligatoirement aller acheter des produits qui sont fabriqués dans le reste du monde.
Et alors, ça marche, finalement, on voit que ça se développe. Est-ce que ça se développe parce que les tarifs ont un peu baissé de l'achat français, ou est-ce que c'est parce que les consommateurs sont prêts aujourd'hui à mettre plus, ou est-ce que c'est peut-être les deux raisons assemblées?
Oh bah c'est sans doute un peu des deux, c'est-à-dire que les produits donc Made in France, ou plus largement les produits régionaux, les produits locaux, sont entrés dans la grande distribution. Et donc, obligatoirement, la grande distribution a fait le même travail qu'elle a fait depuis une cinquantaine d'années. Elle a cherché à réduire les marges, elle a cherché à réduire les différents intermédiaires. Et donc, obligatoirement, il y a eu une pression sur le prix des produits Made in France. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, quand même, c'est que vous avez une partie de la population française qui, dans ce mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure, a eu envie de se dire il y a un juste prix en dessous duquel il ne faut pas descendre. Et vous avez quelques exemples frappants, connus aujourd'hui de ce domaine-là. C'est le lait d'ici, ou c'est qui le patron, ou dans lequel on va dire « Ok, moi je suis prêt à payer un peu plus cher ce produit-là pour que en face, le producteur de lait, il puisse vivre décemment, il puisse même partir une semaine ou deux en vacances. » Donc il y a une vraie réflexion là-dessus sur le juste prix du produit.
C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, en début d'émission, de cette expression, le circuit court, dont on a beaucoup entendu parler, mais surtout au niveau de l'agriculture, des agriculteurs. On a vu que des AMAP se sont créés, des choses comme ça. Et ce côté un peu local, j'ai l'impression, s'est beaucoup développé au départ autour de la nourriture. Mais maintenant, on parle vraiment plus de l'industrie beaucoup plus développée. Alors, est-ce que le Made in France, maintenant, touche un peu tous les domaines, ou est-ce que ça reste restreint à certaines niches, certains produits, peut-être certains produits très de la culture française, je ne sais pas.
Alors, il est nettement plus développé, le Made in France, sur l'alimentaire. Je vous rejoins complètement sur ce point-là. On a aussi une industrie agroalimentaire qui est très forte en France, une agriculture qui est très forte en France et largement répandue sur le territoire. Donc, ça facilite la possibilité d'acheter français, d'acheter local. Ceci dit, et la période qu'on vit actuellement avec la pandémie, le premier confinement au printemps, le nouveau confinement actuellement, nous amène à réfléchir plus au niveau local dans nos approvisionnements. Et on peut imaginer que à la sortie de cette crise, on aura une partie de production, si c'est possible, qui sera achetée parce qu'elle est faite à proximité. Mmh. Ceci dit, le modèle quand même dominant aujourd'hui est toujours largement dominant. C'est un modèle de production mondialisée dans laquelle on fabrique en Asie du Sud-Est, on fabrique dans le bassin méditerranéen des produits qui sont consommés par les pays occidentaux.
Ben, ça reste très ancré quand même. Oui. Alors, Fabienne voulait rebondir. Fabienne Delahaye.
Je voudrais juste rebondir sur la question du prix. C'est très important pour moi, juste trois choses. Il y a des produits made in China extrêmement chers. Si vous achetez une paire de Nike, c'est compliqué de la trouver à moins de 150 €. J'ai des enfants, donc je connais la pression que c'est d'avoir des marques. Le made in China est quand même parfois très très cher. Et pourtant, ce type de produit, on en voit quand même beaucoup. Donc, ça m'agace un peu parfois d'entendre made in, quand je dis, de dire ah c'est cher, alors qu'on se pose pas, ah parce que c'est pas cher des Nike, alors qu'il y a des produits fabriqués en France, par exemple 1083, ces chaussures coûtent moins cher et elles sont fabriquées en France. Deuxième chose, parce que le marketing a aussi beaucoup quelque part d'intelligence. Quand on parle des produits allemands, on parle jamais des prix. La question n'est posée que par rapport à la qualité. Ah bah oui, mais c'est de la Dutch qualité. Mais les produits français aussi sont de bonne qualité.
Il y avait toute une pub
et donc,
là-dessus.
Quand il s'agit des produits français, la question du prix intervient. Et quand il s'agit de produits allemands, enfin, il n'y a pas de problème. Je dis pas qu'ils sont de mauvaise qualité, ils sont de bonne qualité, mais les produits français aussi. C'est pour ça que vous voyez, le marketing a vraiment un rôle à jouer. Et puis, j'aimerais bien qu'un économiste fasse un jour le coût, nous calcule le coût par habitant et par an du made in ailleurs. C'est-à-dire, ça nous coûte combien d'acheter sur l'emploi made in ailleurs? Ça nous coûte combien sur l'environnement d'acheter made in ailleurs? Ça nous coûte combien même sur la question sanitaire, le nombre d'allergies qui est lié à des produits qui n'utilisent pas forcément des composants sanitairement neutres, en tout cas des produits qui très souvent sont interdits depuis longtemps en France, puisque la réglementation est quand même très rigoureuse. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça, la question du prix, elle est quand même biaisée parce que on le paye autrement. On paye par des impôts, par les chômeurs. Normal, bien sûr, il y a des indemnités. Elles sont payées par qui, ces indemnités ? Par chacun de nous. C'est-à-dire, on croit payer un t-shirt 5 euros et en fait, on le paye beaucoup plus cher, mais autrement. C'est juste ce que je voulais rajouter.
Franck Lehuédé, ça va être un domaine de recherche que vous pourriez faire au Crédoc ?
Oui, on pourrait en effet imaginer ce type d'étude. Très clairement, je souscris pas obligatoirement à tout ce que madame a dit, notamment il y a des produits qui sont sans doute de moins bonne qualité ou de mauvaise qualité venant de pays d'Asie du Sud-Est ou de Chine, mais pas tous les produits venant de la mondialisation sont de mauvaise qualité. Hein, donc il faut.
C'est pas ce que j'ai dit.
D'accord.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé des prix Nike. D'accord. Qui était très très cher. Et donc quand on parle de la question du prix des Nike en de produits français, par exemple des chaussures de tennis, à ce moment-là qu'on parle des prix chinois, c'est ça que je veux dire. J'ai pas parlé de qualité là, je parle de la question du prix. Voilà.
Vraiment. Je rebondissais sur votre deuxième élément, vous disiez la qualité peut être inférieure.
Non, j'ai parlé de produits, et ça c'est vrai, parce que savez-vous que quand vous avez des contrôles aléatoires en douane, vous avez notamment sur les jouets, ça a été fait, c'est impressionnant, une bonne partie des composants ne seraient pas possibles d'être utilisés par un fabricant français.
On n'a pas les mêmes bases, les mêmes réglementations.
Mais qui contrôle ? On contrôle effectivement un certain nombre de choses, les prix, etc., mais on ne peut pas contrôler la composition même de tous les produits. Et je vous assure que quand il y a des contrôles aléatoires, on est extrêmement inquiet de la composition des choses. Ce n'est pas pour autant que c'est de la mauvaise qualité, etc. C'est juste qu'il y a des composants et des colorants, des métaux lourds, etc., interdits sur le territoire français. Après, ils viennent autrement.
Là où je vous rejoins par contre, c'est qu'en effet, avoir une dimension qui intègre le coût social de la production et de la fabrication d'un bien à l'extérieur du territoire et son coût environnemental, c'est une dimension qui va prendre de l'importance dans les années à venir et c'est quelque chose sur lequel les consommateurs seront attentifs. Pas tous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de la population qui va grossir dans les mois à venir, compte tenu de la crise économique qu'on va vivre, qui n'a pas les moyens ou qui ne s'estime pas avoir les moyens d'aller vers des produits de proximité, des produits locaux ou made in France. Mais il y a une bonne partie de la population, et ça se diffuse dans l'état d'esprit des gens, notamment venant de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure, que ces dimensions-là doivent être intégrées aujourd'hui dans les motivations d'achat.
Tout à fait, oui.
Franck Lehuédé, merci beaucoup de votre étude sur ce Made in France. Et puis, donc je rappelle que vous êtes au CREDOC, le Centre de Recherche pour Études et Observation des Conditions de Vie. C'est toujours très intéressant d'avoir un peu ce regard, cette hauteur de point de vue pour analyser tous ces mouvements. Dernière petite question quand même, quelle évolution à venir pour ce type de marché ? Vous l'avez un tout petit peu dit qu'après le confinement, peut-être, c'est un marché qui va plus se développer ?
Oui, moi j'aurais tendance à penser qu'on est sur une tendance de fond. Les consommateurs recherchent du sens dans leur consommation et du sens dans les actes qu'ils ont. Et là, la pandémie rajoute une dimension autre qu'économique sur les inconvénients ou les conséquences de la mondialisation qui vont faire qu'une part plus importante de Français sur un peu plus de marché va se poser la question de l'origine de fabrication du produit.
Le Made in France va vivre et survivre. Ça va être justement une petite transition avec la pause musicale que nous allons entendre tout de suite. I Will Survive, Gloria Gaynor. Merci beaucoup, Franck Lehuédé.
At first I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, strong, and I learned how to get along. Now you're back from outer space, and I find you here with that look upon your face. I should have changed that.
C'est Gloria Gaynor. Nous parlons du Made in France aujourd'hui dans Grand Angle.
Grand Angle, Faustine Fayette.
Et nous sommes sur RCF. Nous parlons du Made in France avec Fabienne Delahaye. Vous êtes fondatrice et présidente du salon du Made in France, la MIF Expo. Alors le site internet pour trouver toutes les infos, c'est mifexpo.fr et MIF comme Made in France, forcément. Alors on va un petit peu, vous allez un peu nous raconter cette aventure quand même de ce salon du Made in France, parce que aujourd'hui il y a énormément de salons, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé, mais ce Made in France, donc vous l'avez créé en 2012.
Ouais.
Vous avez un petit peu expliqué tout à l'heure que justement c'est parce que vous-même vous cherchiez à acheter français et que vous ne trouviez pas, enfin il y avait peu de visibilité. Au début, 85 exposants, première édition,
oui.
Et 15 000 visiteurs, c'est déjà quand même pas mal. Hein.
Pour une première édition, on était contents.
C'est pas mal.
Et ce qui a été étonnant, c'est le succès immédiat public et médiatique. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, Arnaud Montebourg était ministre. À l'époque, il était ministre du redressement politique, du redressement productif. Et ensuite, il a été ministre de l'économie. Et il a inauguré le salon. Alors, c'est vrai que qu'un ministre inaugure un salon, c'était Espace oui. Champéret avec 80 exposants. C'est sûr que ça a médiatisé le salon. Et aujourd'hui, on est 600. Enfin, on est. Nous aurions dû être en novembre 600.
Près 600 exemples. Près
600, enfin 580 ouais. exposants. Oui, non, mais près de 600 en plus. Et on attendait 100 000 visiteurs.
Ah oui, c'est
donc,
quand même.
On a dû effectivement, bien sûr, on a dû annuler.
Oui.
Et tout à l'heure, on parlait justement un petit peu d'économie et des raisons pour lesquelles les Français sont venus au Made in France. C'est un peu ça aussi hein, qui m'a motivée. Je me suis dit quand même que le fait qu'on ne fabrique plus en France, soi-disant pour des raisons économiques, c'est-à-dire que il y a eu tout ce discours de mondialisation heureuse et acheter Made in ailleurs puisque vous n'avez plus les moyens d'acheter Made in France. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête? N'est-ce pas absurde de produire ailleurs ce qu'on peut très bien faire ici? Et quand on me dit que les Français n'ont pas les moyens, mais je me suis dit, mais en fait, ils sont en train de s'appauvrir. Parce que à l'époque où on achetait Made in France, je ne suis pas sûre que le niveau de vie était plus faible. Alors, le coût de l'appartement, etc., c'était pas la même chose. Mais j'étais très, très étonnée, très surprise que pour des raisons économiques, on nous dise « fabrique ailleurs ce que tu peux faire ici ». Ça m'a gênée. Donc, il y a eu... Et ce qui a été un déclencheur aussi, c'est la désertification des territoires. C'est-à-dire que moi, je me souviens, dans mon enfance, je me baladais en France et il y avait des... Enfin, partout, des gares, des écoles, une possibilité de d'aller dans un restaurant, de prendre un pot, de vivre. Et quand vous faites le tour de la France aujourd'hui, c'est déjà, si vous n'avez pas de voiture, c'est très compliqué parce qu'avant, il y avait des gares partout, ce n'est plus le cas. Il y a les écoles, enfin, il y a plus ce rire des enfants. On s'en rendait même pas compte. Il y avait une espèce de bruit heureux. Et du coup, il y a plus ça. Donc, la désindustrialisation a pour corollaire la désertification des territoires. Et c'est, pour moi, un enjeu essentiel. Donc, ma motivation pour créer un salon, ça a été de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ? Et je me suis dit, bon, faisons la promotion des acteurs qui font l'effort de fabriquer encore en France, de préserver nos emplois, de préserver nos savoir-faire, et puis de préserver aussi nos territoires. Et si j'insiste, c'est parce qu'on parle moins de la désindustrialisation liée au Covid, notamment, mais on parle peu de la désertification des territoires. Et il y a là, je pourrais pas, parce que ça pourrait durer des heures, mais vous donner toutes les conséquences délétères de la désertification des territoires. Donc ça a été, au-delà du fait que moi-même je voulais consommer français, y a eu ce déclenchement-là en disant mais c'est pas possible.
C'est un vrai engagement.
On peut pas continuer comme ça. Voilà.
On parlait tout à l'heure aussi des différents domaines de ce fabriquer français. Dans vos exposants, depuis le début jusqu'à maintenant, selon les différentes éditions, vous avez vu aussi, est-ce que vous avez vu se développer d'autres domaines de produits français parmi une diversification en fait du Made in France, ou est-ce que c'est vraiment partout florissant ?
Alors, c'est effectivement, comme vous dites, partout florissant. C'est-à-dire que quand on est passé de 70 ou 80 entreprises exposantes en 2012 à 600 aujourd'hui, c'est dans tous les secteurs d'activité que l'augmentation est constatée. Et d'ailleurs, la réflexion qui revient le plus souvent de la part des visiteurs, mais y compris d'ailleurs des journalistes et des politiques, c'est l'étonnement de la diversité et la richesse des produits qu'on trouve encore sur le territoire. On produit encore beaucoup de choses. Alors, il y a des petits problèmes sur l'électronique, sur un certain nombre de produits, mais quand même, on voit aussi beaucoup de jeunes se lancer dans l'aventure du Made in France en utilisant intelligemment la tradition et l'innovation. Mmh.
Mmh. Et donc, ça, c'est très intéressant de voir ces nouvelles générations allier ça. Et là, ça tord un peu le cou au ce qu'on appelle le French bashing, quoi. Là, c'est vraiment des...
Voilà, tous les jeunes ne veulent pas partir aux États-Unis pour développer leur produit, leur intelligence. Voilà, donc il y a effectivement une vraie augmentation d'entreprises, de jeunes entrepreneurs qui ont envie de jouer la carte du Made in France, et j'en suis bien sûr ravie.
Alors, vous avez dit le succès s'est développé assez vite sur ce salon, auprès des visiteurs, auprès des exposants aussi. Vous avez eu tout de suite des demandes de plus d'exposants, d'entreprises qui sont venues spontanément vers vous.
Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a presque plus le temps, en fait, de contacter des entreprises. J'exagère un petit peu, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on nous contacte. Ça a été très, très difficile, la première édition en 2012. J'avoue, le salon était en novembre. En septembre, on ne savait même pas si on allait le maintenir. Maintenant, je peux bien l'avouer. Aujourd'hui, c'est sûr que la question ne se pose plus. Et c'est vrai qu'il y a ces 600 entreprises, en fait, en 3 mois, on arrive en 3 mois à peu près, en 3 à 4 mois, on boucle quasiment le salon. Quoi. C'est
pourquoi la première édition, ça avait été difficile ?
C'est difficile parce
qu'il fallait les convaincre.
Parce que, alors déjà, une première de quelque chose.
Il faut toujours convaincre.
C'est, voilà, d'une part. D'autre part, c'est vrai que souvent, les grandes entreprises, je peux comprendre hein, les raisons, ne sont pas forcément celles qui se lancent tout de suite dans une aventure nouvelle. Et puis, les petits, eux, sont plus curieux de voir comment ça se passe, mais n'ont pas forcément les moyens.
Et,
bon.
Oui.
Et après, les grandes, quand elles voient que ça a bien marché, nous suivent. Je comprends, elles ont aussi plus d'enjeux par rapport à la notoriété, par rapport à leur image, et elles n'ont pas envie de s'engager dans quelque chose qui pourrait ne pas marcher. Donc, c'est pas... Je peux comprendre. Quelle était la question d'abord?
Non, c'est pourquoi les convaincre plus particulièrement? Mais vous avez répondu.
Oui, voilà, on a moins lieu de convaincre aujourd'hui. Mmh. Et puis, on est connu. Ça a été difficile. Ah oui, voilà, au départ, c'était ça, votre question sur 2012. Et là, les mentalités ont changé. C'est qu'en 2012, on nous disait encore, mais c'est passéiste le Made in France. Pourquoi défendre les produits Made in France alors qu'on fait très bien ailleurs et pas cher, et en France plus qu'ailleurs? Et c'est pas pour rien qu'on a désindustrialisé en France bien plus qu'en Italie ou partout ailleurs en Europe. C'est qu'on avait quand même ce discours, mais pourquoi tu fais ça? Et moi, on m'a traité effectivement de passéiste dans le meilleur des cas, mais aussi j'ai reçu des mails de nationalistes, mais enfin et aujourd'hui ça viendrait à l'idée de personne.
Mais bien sûr, c'est très étonnant parce que 2012, pourtant ça paraît pas si vieux, mais là aujourd'hui on est tous quand même dans ce mode-là de revenir français.
Ouais. Donc, vous auriez mis un drapeau aux fenêtres en 2012, je vous assure, quand vous êtes traité de mots extrêmement désagréables, type nationaliste, etc. Aujourd'hui c'est plus le cas.
Ouais.
Donc, mais moi, je suis très optimiste, c'est-à-dire que maintenant qu'est en marche ce mouvement du Made in France, je pense qu'il n'est pas prêt de se terminer. Vous savez, le Made in France, c'est comme le chocolat, c'est addictif.
Oula, alors là, on va être très, très addict. quelle évolution vous voyez peut-être auprès des visiteurs? Est-ce qu'il y a un intérêt pour certains types de produits plus que d'autres, ou est-ce que c'est très, très varié aussi? Parce que à la fois, donc, dans les exposants, on a bien compris, c'est très, très, très divers. Mais est-ce que les visiteurs, eux, montrent un intérêt particulier sur certains produits?
Il montre en fait un intérêt particulier pour de nombreux produits différents, et notamment ceux qui connaissent pas. Très souvent, ils viennent pour un produit, pour une entreprise, et puis ils voient une démonstration de savoir-faire. Et là, ils sont étonnés de la façon dont peut se fabriquer un produit, posent des questions et du coup ont vraiment envie. La plupart sont curieux de savoir vraiment ce qui se fait en France. Alors évidemment, pour faire le tour, il faudrait rester une journée entière. Donc non, on sélectionne. Mais il y a une vraie curiosité. Alors j'avoue, je sais pas si c'est pas une statistique, mais j'ai quand même remarqué que la plupart des hommes avaient du mal à partir sans quelque chose lié à la gastronomie. Voilà.
Ah oui.
Ça, ils achètent aussi d'autres choses. Voilà.
Alors, en organisant ce type d'événement, vous avez été amené aussi à faire de belles rencontres, j'imagine. Des rencontres avec des fabricants, des personnes qui aiment leur métier, souvent des passionnés aussi, j'imagine. Est-ce qu'il y aurait une ou deux belles histoires à nous raconter comme ça de rencontres?
Donc, vous souhaitez que je me fâche avec les 598 personnes dont je ne parlerai pas. Sympa. Parce qu'en fait, il y en a eu plein des belles rencontres. Mais là, disons, belles rencontres et puis beaux succès aussi d'entreprises. Je pense, là, comme ça, me viennent deux, trois entreprises à l'esprit, dont l'Amazuna. Ce qui est intéressant chez l'Amazuna, c'est leur progression. Ils ont commencé il y a une dizaine d'années. L'entreprise compte aujourd'hui 70 salariés.
Ils fabriquent
quoi?
Et
il y a des projets, des cosmétiques. Ils ont d'ailleurs reçu le grand prix de l'entrepreneur Ils ont concouru au grand prix de l'entrepreneur de l'année. Ils sont arrivés deuxième, en fait. Pardon, c'était pas les premiers. J'aimerais aussi parler des Georgettes. Les Georgettes, c'est des bracelets. Et Éric Lefranc, qui a créé le groupe Renaissance pour reprendre justement, créer les Georgettes et puis d'autres entreprises qui sont EPV, entreprises du patrimoine vivant, et qui essaient de reprendre des endormis, en fait. Et aujourd'hui, c'est 500 personnes au fin fond de l'Ardèche. Donc, c'est vraiment important. Et ils souffrent énormément. Aujourd'hui, 90% de son chiffre d'affaires est fait en boutique. Donc, c'est... D'où, on en parlera tout à l'heure du catalogue. Donc effectivement, il est effectivement très 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 touché par la crise. Et puis je pense aussi à Payotte, qui a, Olivier Gély, le patron, a remis au goût du jour l'espadrille.
L'espadrille.
Et pour maintenir ce savoir-faire français. Donc voilà, trois entreprises, mais je pourrais vous en citer mais des centaines d'autres pour qui j'ai eu des coups de cœur.
Alors, les coups de cœur, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous êtes venu avec un comment on appelle ça ?
Une pochette surprise.
Pochette surprise.
Elle s'appelle, voilà, la pochette surprise Made in France.
Alors ça, c'est nouveau de cette année.
Alors
pourquoi ?
Ça n'aurait pas existé sans le confinement. Non mais on essaie d'optimiser, on essaie d'être toujours positif, enthousiaste. Et lors du confinement, en fait, un dimanche, je discutais avec mon agence de relations publiques et on se disait, bon, faut absolument, les entreprises Made in France ne peuvent plus vendre, on est toutes confinées, il faut trouver un nouveau débouché. Donc à l'époque, on était en mars, on pensait que le salon aurait lieu, hein, on ne savait pas. Et donc on a eu l'idée de cette pochette surprise. Et donc dans cette pochette, vous avez donc pochette homme ou pochette femme, vous avez que des produits made in France, de 5 à 7 produits fabriqués en France. Et donc l'idée, c'est lorsque vous êtes invité à un dîner par exemple, ou que vous fêtez un anniversaire, plutôt qu'offrir des fleurs, dont 90%, 95% je crois, sont importés dans des conditions environnementales assez catastrophiques. Donc autant acheter une pochette Made in France, parce que dedans il y a effectivement de 5 à 7 cadeaux, mais il y a aussi de l'emploi, du savoir-faire, la préservation de l'environnement, vous avez tout. Et je vous propose de l'ouvrir.
Ah, génial.
Je vous l'offre et comme ça, vous verrez tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Surprise Made in France. Alors, je vais l'ouvrir comme ça, hop, tout de suite.
Alors, c'est très marrant cette surprise.
C'est
parce
génial.
Que quand vous êtes invité, par exemple, vous venez avec une surprise, vous-même, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et donc, vous offrez quelque chose qui est une surprise. Et donc, ensemble, on découvre ce que vous offrez. Je trouve que c'est amusant.
Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, mais je vais commenter.
Bah voilà,
vous allez commenter.
Alors, je commente,
voilà.
Là, je ne sais même pas moi ce qu'il y a.
Alors,
je crois que c'est de la tisane.
Madame se repose, aide à se relaxer et à retrouver le sommeil. Tilleul, bigaradier, lavande, en théadote.
C'est ça, c'est une tisane. Elles sont,
infusion bio.
Voilà, elles sont bio, tout à fait. Et donc préserve l'environnement, faite en France. Et donc, effectivement, donc il y a des tisanes dans cette pochette. Il y a
une paire de chaussettes. Bleu forêt.
Magnifique entreprise dans les Vosges, Bleu forêt, qui fait des chaussettes que vous pouvez retrouver dans pas mal d'endroits. Et également dans notre catalogue, on en reparlera.
Alors, une petite, un porte-carte.
Ah, la carte à Blière. Bah, vous parlez des coups de cœur. Ça aussi, c'est un coup de cœur,
la carte à Blière.
C'est une entreprise, entreprise du patrimoine vivant qui fait de la maroquinerie avec ces petits. Vous voyez la décoration. C'est dommage, effectivement, qu'on ne peut pas voir à l'écran. Moucheté d'or.
Ouais. Des petites paillettes. Quoi.
Et d'or et de paillettes, ce sont des très beaux produits. J'ai toute sa gamme.
Ensuite,
tout ça, c'était dans la pochette. Alors,
Mademoiselle Provence, Made in France, crème de
main. Une crème pour les mains. Vous voyez, c'est que des choses dont on a forcément besoin. Vous voyez, une crème pour les mains, une tisane. Enfin, on ne peut pas jeter ces choses-là, puisque parfois, vous faites un cadeau, puis on les retrouve sur. Sur le bon coin. Là, non, parce que tout le monde a besoin d'une crème pour les mains, a besoin d'un bonnet, d'une paire de chaussettes. Tous ces produits sont des produits qu'on peut utiliser quotidiennement.
Le petit Olivier,
un baume à lèvres en ce moment.
Bah oui.
C'est quand même
pas mal avec le froid.
Voilà.
Qui arrive.
On ne peut plus approprier.
Donc il y a beaucoup de choses. Hein,
mais il y a beaucoup de choses dans nos pochettes.
Ensuite le bonnet.
Alors ça c'est blanc bonnet. Ateliers Perrache, une entreprise labellisée OFG. Ouais. Outre le fait que la dirigeante est particulièrement sympathique, ces produits c'est une vraie découverte pour moi parce que c'est un des rares bonnets. Je fais du vélo et c'est un des rares bonnets qui recouvre vraiment les oreilles et qui vous permet de tourner votre tête à gauche et à droite sans que le bonnet
là on sent l'habitude
redécouvre les oreilles et du coup vous n'avez jamais froid. Donc j'adore ces bonnets blanc bonnet.
Et ensuite, Peacock, Peacock, brume parfumée.
Oui, c'est une brume. Alors, voilà. Peacock, là aussi, c'est une magnifique découverte. C'est d'ailleurs la lessive que j'utilise. Là, ça, c'est un spray pour la maison, déodorisant. Voilà. Mais il y a de la lessive aussi, Peacock, qui est magnifique. Il y a une bonne odeur de propre et en plus avec des ingrédients naturels, etc. C'est-à-dire, outre le fait que dans cette pochette, vous avez des produits qui créent de la richesse sur le territoire, de l'emploi, préservent les savoir-faire, mais vous vous faites également plaisir avec des bons produits. Et
alors, l'ensemble coûte combien ?
Alors, celle-là, elle coûte... j'ai oublié. Tout d'un coup, j'ai une cinquantaine d'euros.
Et donc, pour se le procurer, donc c'est sur le site mif.espo ou c'est...
Alors, celui-là, non, il faut faire voilà surprise.
Voilà surprise. C'est,
voilà surprise.
Peut-être une autre idée de cadeau en plus de des trois pages d'idées cadeaux qu'il y a dans notre temps. Voilà, peut-être une autre. Voilà, c'est bien trouvé comme nom.
Alors pourquoi voilà ? C'est pourquoi pareil. Voilà, on a eu beaucoup de difficultés en fait. Comment on appelle ça ? On a tout un tas de noms. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ça fait une heure qu'on discute. On a dit au moins 15 000 fois voilà. Parce que, et je sais qu'il y a certains étrangers qui, quand ils veulent nous caricaturer, nous appellent les voilà. Parce qu'en fait, comme en anglais, on va dire facilement so, etc. Nous, on dit voilà tout le temps. Et je me suis dit, bah voilà.
Voilà.
Voilà. Ça nous caractérise. Donc je voulais quelque chose qui soit français, en fait. Et voilà, c'est typiquement français.
Donc une idée de cadeau, une idée pour tous ceux qui veulent soutenir peut-être les entreprises françaises, le savoir-faire français.
Se faire plaisir.
Et puis donc la pochette femme et la pochette homme.
Voilà, on va sortir bientôt la pochette enfance parce que on s'est rendu compte que parfois quand on savait jamais quoi offrir à un nouveau-né, la pochette enfance naissance, et que c'était toujours compliqué, on s'est dit on va mettre plein de choses sympas bio pour une pochette naissance et comme ça ce sera beaucoup plus facile d'offrir un cadeau de naissance et au moins ce sera un beau cadeau made in France. Pour un nouveau-né Made in France.
Oui, bonne idée. Et d'ailleurs, vous avez lâché un mot, le bio.
Oui.
Le bio, le développement du bio va aussi avec le développement Made in France, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on revient à ce savoir-faire français, mais il y a aussi aujourd'hui tout ce développement du bio.
Et du local.
Et du local.
Et rien n'est
tout
plus...
Tout ça, ça va ensemble.
Ça va ensemble. Donc, si on veut rapprocher les lieux de consommation... des lieux de production, le Made in France me paraît tout approprié.
Alors, donc, on a parlé de la pochette. Maintenant, je voudrais qu'on parle justement de votre salon, malheureusement annulé. Mais vous avez une autre idée et on est en plein dans l'actu aujourd'hui.
Oui.
Puisque aujourd'hui sort donc un catalogue que vous avez fait à partir, je pense, de ce salon annulé.
Oui, quand on a annulé le salon, ça a été dramatique, c'était un déchirement. C'est-à-dire que on a mis 3 jours à envoyer le mail d'annulation, tellement ce fut un choc. Et puis on a eu énormément de messages de soutien. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les entreprises qui nous ont remis un peu de baume au cœur et qui nous ont encouragés à développer un produit. Et là, on s'est dit, il faut absolument qu'on produise le maximum de jus de cerveau. Toute l'équipe s'y est mise en disant, c'est pas possible. On peut pas ne rien faire à quelques encablures de Noël. Et d'autant que c'est compliqué pour les entreprises aujourd'hui de vendre leurs produits puisque une partie des commerces sont fermés. On s'est dit, il faut absolument trouver des débouchés commerciaux.
Oui, parce que déjà, à la base, ils ont besoin d'être soutenus et encore plus.
Et là, voilà. Et est née donc cette idée de catalogue. Et donc, on a tout de suite connu un vrai enthousiasme, donc ce qui n'a fait que nous encourager. Et aujourd'hui, il y a près de 900 produits dans ce catalogue, donc qui sort aujourd'hui.
Donc faut le retrouver où ?
Alors, on va le retrouver sur le site mifexpo.fr, sur notre site. Et on s'est dit que c'était plus simple sur notre site plutôt que réinventer une fois de plus un nouveau nom de site. Donc, c'est sur notre site mifexpo.fr. Le catalogue, vous retrouvez plus de 900 produits. Vous faites une wishlist et ensuite vous attirez directement sur le site marchand des entreprises. Il n'y a du coup pas d'intermédiaire.
Donc c'est ça, le catalogue interactif, c'est qu'on peut cliquer sur le produit et on arrive sur le site du commerçant.
Et on arrive sur le site et puis on achète. Moi, alors vraiment, je n'ai pas de commission, je n'ai pas du tout. C'est vraiment 100% du chiffre va aux entreprises. C'est important de le souligner. Et il y a vraiment tellement de choix parmi ces 900 entreprises qu'on peut y faire ces cadeaux de Noël, ou tout type de cadeaux, ou même sans raison particulière. Mais c'est vraiment l'occasion ou jamais, un, de donner du sens à ces achats, et puis de soutenir ces centaines d'entreprises qui sont en souffrance aujourd'hui. Et si il y a une cause majeure à défendre aujourd'hui, c'est bien le Made in France.
Quels sont les leviers de développement pour le futur de ces entreprises? Comment on peut développer ce Made in France ou l'aider, on va dire? C'est peut-être justement acheter, simplement.
Alors, aider, c'est acheter Made in France, acheter. Au-delà des aides, financières, etc., du gouvernement, ce que veut avant tout une entreprise, c'est pas des aides, elle veut vendre. Et donc, si on pouvait faire en sorte d'acheter au maximum. C'est vrai que là, le consommateur a plus que jamais un rôle à jouer parce qu'il faut trouver des débouchés commerciaux pour toutes les entreprises. Donc, si, vraiment, je crois que cette année, il faut absolument... D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que Made in France rime avec sens, en fait. Donc, acheter un cadeau qui a du sens, c'est acheter Made in France. Et ben voilà.
Ça va presque être le mot de la fin. Alors je rappelle quand même tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Hein, donc le salon du Made in France se tient habituellement au mois de novembre, c'est ça?
Alors habituellement au mois de novembre. L'année prochaine, on a les dates. Le 11, 12, 13, 14 novembre, ce sera 4 jours
2021.
D'une fête qui sera absolument incroyable parce que toutes les entreprises qui sont frustrées cette année de ne pas être venues, elles vont venir en force l'année prochaine. Ça va être, on en reparlera, vous verrez l'année prochaine. On va faire un truc fou l'année prochaine. Vraiment.
Vous êtes une bonne ambassadrice de votre salon. Et donc, en tout cas, pour cette année, donc un catalogue interactif pour peut-être acheter des cadeaux de Noël Made in France,
oui.
Sur mifexpo.fr. Et donc, je rappelle aussi une idée intéressante, innovante. Donc, la pochette surprise avec que des produits français. Donc, la pochette Voilà. Donc là, on peut se le procurer sur voilasurprise.fr. En tout cas, on tape Voilà Surprise,
Voilà Surprise,
je pense, sur Google, sur n'importe quel site de recherche. Et puis, on peut donc se procurer, je rappelle, le magazine Notre Temps du mois de décembre qu'on retrouve dans les kiosques. Notre Temps, donc, qui a fait une grande enquête ce mois-ci sur le Made in France. On retrouvera des chiffres, on retrouvera une analyse et puis des idées de cadeaux aussi. Donc, je remercie évidemment Pierre à la réalisation de cette émission et vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site internet rcf.fr. Je vous remercie Fabienne Delahaye, donc fondatrice et présidente du salon du Made in France, d'être venue nous présenter tout ça et puis soutenir nos entreprises françaises qui en ont bien besoin aujourd'hui.
Oui. Merci.
Voilà. Donc peut-être le mot de la fin, c'est osons le Made in France. Qui rime avec sens, comme vous avez dit. Osons des achats qui ont du sens. Merci à tous et bonne soirée.